VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter ce bulletin d'information du dimanche 7 janvier 2024. Il est 19h en temps universel. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit très préoccupé par les discours de haine à caractère ethnique et l'incitation à la violence en République démocratique du Congo. Dans un communiqué, Volker Turk a déclaré être préoccupé par la montée des discours de haine, en particulier dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Kasaï et la région du Katanga. Après les élections générales du mois dernier, il a qualifié d'odieux les discours haineux, déshumanisants et incitatifs, soulignant qu'ils aggravent les tensions en RDC et mettent en danger la sécurité régionale. Volker Turk a appelé les autorités à enquêter sur tous les signalements de tels discours et d'incitation à la violence et à demander des comptes aux responsables. Les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé que des victimes civiles ont été découvertes après des frappes aériennes de l'armée contre des terroristes dans la nuit de vendredi à samedi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon un communiqué du CNSP, l'armée a repoussé l'attaque terroriste d'un groupe avec une vingtaine de motos qui visaient un poste militaire à Tiawa dans la région de Tillaberi. Dans la foulée des frappes aériennes, une deuxième colonne de groupe armé terroriste a été opérée vers la position militaire de Tiawa, a indiqué samedi le CNSP dans le communiqué lu à la télévision publique. Au cours d'un ratissage, une patrouille a découvert des victimes civiles sur les lieux de la frappe. Les blessés ont été évacués au centre de santé de Gotei, selon les militaires. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a signé samedi une loi annulant un accord maritime qu'il estime illégal entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Avec ce protocole d'accord signé le 1er janvier, le Somaliland, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, entend octroyer à l'Éthiopie l'accès à 20 km de côte pour une durée de 50 ans. Le président somalien a déclaré que l'adoption du projet de loi annule ce pacte illégal qui donne à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge. Il illustre notre engagement à sauvegarder notre unité, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, conformément au droit international, a écrit le président sur le réseau social X. En Tunisie, 4 personnes sont mortes et plus de 40 ont été intoxiquées après avoir consommé de l'alcool frelaté dans le sud du pays. Une enquête a été ouverte. La personne qui a fourni l'alcool a été interpellée et des analyses de la substance sont en cours, a indiqué le tribunal de Médénine. Et en Libye, la compagnie nationale de pétrole a annoncé la suspension de la production sur un important gisement pétrolier dans le sud-ouest du pays à cause d'un mouvement de protestation qui a bloqué l'activité. Elle a indiqué dans un communiqué avoir décrété l'état de force majeure sur le champ Al-Sharara à compter de dimanche à cause de la fermeture du site par des protestataires.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes sur la bande de Gaza durant la nuit, dont au moins 6 à Rafah. Dans la matinée, des témoins ont fait état de frappes à Khan Younes, épicentre des combats entre les soldats israéliens et le Hamas. Al Jazeera a annoncé la mort de 2 journalistes palestiniens travaillant pour elle à Gaza, Mustafa Touraya et Hamza Weldaoudou, tués selon elle dimanche par une frappe israélienne sur leur voiture. Un troisième journaliste qui voyageait avec eux a été grièvement blessé. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu près de Doha avec l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Monsieur Blinken a estimé qu'Israël doit en faire plus pour protéger les civils palestiniens à Gaza qui doivent pouvoir rentrer chez eux dès que les conditions le permettront, a-t-il dit à Doha, aux côtés du Premier ministre Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, dans le cadre d'une nouvelle tournée au Proche-Orient. Lors d'une conférence de presse, il a assuré que les États-Unis œuvrent à empêcher le conflit de se propager dans la région. Monsieur Blinken a également rencontré à Amman le roi Abdallah II de Jordanie. Ce dernier a appelé les États-Unis à faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu immédiat. Et le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, a reconnu avoir omis de signaler son hospitalisation qui n'a été rendue publique que tardivement, y compris à la Maison-Blanche. L'hospitalisation du chef du Pentagone depuis lundi dernier pour complications de santé n'a été rendue publique que vendredi soir par le département de la défense, suscitant les critiques de l'association des journalistes du Pentagone.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dialogue des religions. Éric Manilakis avec vous, Joselle Morissin assure la mise en onde. Une déclaration majeure a secoué l'Église catholique. La bénédiction des couples de même sexe est désormais autorisée hors cérémonie liturgique, un tournant historique, une évolution doctrinale sans altérer la définition du mariage. Le dicaster pour la doctrine de la foi a dévoilé cette décision, suscitant des réactions contrastées au sein de l'institution catholique. Avec nos invités, découvrons ensemble les tenants et aboutissants de cette annonce majeure, ses implications et les perspectives qu'elle ouvre pour les fidèles de cette communauté des homosexuels au sein de l'Église. Benoît Eli Awazimbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, CERCLAD, basé à Ottawa au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine, est avec nous ce soir. Benoît, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir aussi à toutes nos auditrices et auditeurs dans le monde.
Jean-Pierre Sadi Karegeye, il enseigne dans plusieurs universités au Sénégal, au Nigeria et aux États-Unis. Il a une formation pluridisciplinaire, littérature francophone, philosophie, linguistique africaine, éthique sociale et théologie. Il a également publié et co-dirigé des ouvrages sur plusieurs sujets. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Bienvenue encore une fois dans ce dialogue des religions. Le texte est signé par le chef de l'institution héritière de l'Inquisition, le cardinal Victor Manuel Fernandez, et par François lui-même, là je parle du pape, affirme, il est, je cite, « Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière, non mariés et religieusement. » Et les couples de même sexe sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Jean-Pierre, je vais commencer avec vous. On observe des dissensions internes au sein de l'Église face à cette nouvelle directive. Les mouvements progressistes et conservateurs au sein de l'Église réagissent avec virulence à cette évolution. Comment vous, personnellement, vous interprétez cette nouvelle déclaration doctrinale du Vatican qui autorise la bénédiction des couples de même sexe sans créer de confusion avec le sacrement du mariage ?
Or que ce document parle des irrégularités, donc la possibilité de pouvoir bénir, donner la bénédiction aux couples irréguliers. Et parmi les couples irréguliers, si on ne peut pas des couples irréguliers, il n'y a pas, du moins du point de vue de l'Église, il n'y a pas que des homosexuels, c'est-à-dire il y a des divorcés par exemple. Il y a plusieurs cas. Et là, on parle de bénédiction. Donc, c'est vrai, il faut voir dans cela, par exemple, pour le pape François, qui a une certaine attitude, je dirais, d'ouverture sur la question de l'homosexualité, ou je dirais tolérance, pas par rapport seulement à l'homosexualité, à tant qu'homosexualité, mais dans ce que l'Église considère comme des situations de péché. Donc, et situation des péchés, et à cela, il a une attitude de tolérance. Et cette attitude de tolérance ne change rien à ce que l'Église définit comme sacrement. C'est plus une attitude pastorale, donc un accompagnement est possible. Donc, c'est à cela, je crois, qu'il faut comprendre son côté. Mais les réactions multiples, évidemment, je ne dirais pas qu'elles sont justifiées, mais s'expliquent plutôt au sein de l'Église. Donc, il y a une branche des traditionalistes cette branche est très influente et donc on peut avoir des réactions par rapport à ça, mais aussi au niveau de l'Afrique, il y a eu beaucoup de réactions au niveau des évêques, au niveau des prêtres et qui ont réfuté ces déclarations. Par exemple, Monseigneur Sarah a eu une déclaration assez extrême, Robert Sarah. Il a dit par exemple que l'homosexualité occidentale et les idéologies abortives sont aujourd'hui ce que le nazisme et le communisme étaient au XXe siècle. Donc, il a vraiment fait une analogie avec le nazisme. Et donc, je dirais au niveau de l'Afrique, c'est plutôt une question d'avantage culturel. Mais toujours est-il qu'au sein de l'Église, il y a aussi, l'Église catholique en Afrique, il y a aussi des traditionalistes. Mais il y a aussi un élément culturel et qui consiste à rejeter la question de façon générale, je dirais, et qui consiste à rejeter ce qui est homosexualité. Donc, voilà ce que je pourrais dire à propos de la récente déclaration, pas une déclaration, mais ce document de 8 pages. Voilà, merci.
Benoît, en quoi cette déclaration, ce document, marque-t-il une évolution ou une continuité par rapport aux positions antérieures de l'Église catholique sur les questions relatives aux couples de même sexe?
Merci Eric. Voilà, je pense que c'est ça le problème. Là, nous sommes au cœur du problème parce que la déclaration fiducia supplicans, effectivement, est en rupture par rapport à la grande tradition qui a même encore été rappelée en 2021 par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est arrivée par rapport aux doutes, aux dubia qui ont été posés par différentes institutions. La Congrégation pour la doctrine de la foi en 2021 déjà a dit qu'il n'est pas possible de bénir les couples du même sexe, même pas une bénédiction. Donc il n'y a pas continuité, il y a rupture. Et c'est à cause de cette rupture qu'il y a une férocité, une colère, une gravité dans les réactions aux violentes les unes comme les autres, dans les deux camps, on peut dire les modernistes, progressistes ou conservateurs traditionnalistes. C'est surtout à ce niveau. Bien sûr, il faut aussi tenir compte de toutes les précautions interprétatives, théologiques, dogmatiques que ce document fiducia émet. Mais en même temps, et la question, c'est là qu'elle se pose, Eric, elle se pose au niveau de la perception, au niveau de la pratique. Toutes les réactions dans le monde contre ce document se rejoignent dans le point selon lequel nous allons cautionner par les actes, par la pratique, nous allons normaliser l'homosexualité qui a toujours été rejetée par toute la tradition de l'Église comme un péché. Et même le catéchisme de l'Église catholique désigne l'homosexualité parmi les actes intrinsèquement désordonnés ou bien les actes intrinsèquement erronés, mauvais. Et ça, c'est des choses, ça, c'est le langage scolastique, donc intrinsèquement, essentiellement. Donc la réaction que nous voyons, et la violence, aussi bien matérielle que symbolique qui les accompagne, sont à interpréter à cause de la rupture. Et si tu permets, je crois qu'il y a une gravité, mon prédécesseur vient de le dire, c'est vraiment une mutation, c'est un séisme que nous vivons. Il faut voir, non seulement l'Afrique, bien sûr, il y a la dimension culturelle, tous les évêques ont dit, c'est pas notre culture. Mais n'oublions pas que l'universalité de l'Église fait qu'aujourd'hui, la catholicité est mise à l'épreuve par un pape, il faut quand même le souligner, qui argumente son action selon à cause d'une raison théologique. Dieu accueille tout le monde. C'est ça aussi, c'est par rapport à une théologie. C'est pas juste pour faire un pied de nez à l'Église qui fait ça. Mais il dit que la miséricorde de Dieu ne devrait pas être compartimentée et discriminée. Voilà ce que je peux dire.
Oui, Benoît, ça me pousse à vous poser cette question. Comment cela pourrait-il impacter l'évolution future de la doctrine et de la pratique de l'Église catholique en matière des questions sociales contemporaines?
Oui, nous sommes au cœur de la question, Eric. Alors là, rapidement, bon, nous voyons voir l'évolution déjà de levée du bouclier, quoi, des réactions, des oppositions qui se passent, aussi bien en Europe qu'en Afrique et dans le monde. Alors aujourd'hui, on a déjà dit ça, les épiscopats africains vraiment ont rejeté. Pas question de bénir l'homosexualité, au risque de cautionner dans la perception et dans la pratique pastorale et de normaliser l'homosexualité qui est condamnée par la tradition de l'Église et par les Écritures, d'une part. Mais d'autre part, comme tu as dit, il y a aussi, regarde, en Allemagne, Eric, c'est depuis des années qu'on bénit les couples homosexuels en Allemagne, en Belgique et dans certains autres pays africains. Sorry, dans d'autres pays européens. Mais aujourd'hui, avec cette déclaration fiducia, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que les réactions sont vives, hein, par rapport à l'Afrique qui ne veut pas ça et aussi l'Europe de l'Est. Et une partie des États-Unis d'Amérique, surtout les régions traditionnalistes. Alors, quels sont les impacts terribles? Effectivement, le séisme est tellement violent, à une telle magnitude, qu'on ne pourra pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Hein? Mais on peut quand même émettre des hypothèses plausibles. J'en émets trois. Un, et il faut le dire, nous sommes, Dieu seul, il connaît les détails avec certitude, mais on parle déjà de la fin d'un pontificat, hein, au moins au niveau humain. Et je crois que certaines avancées, certaines mesures inédites, neuves et révolutionnaires prises par le pape François, bon, sont en train de provoquer, hein, de révolution, de réaction aussi tout à fait violente. Et là, il faudra, ce sont des choses qui seront reprises, notamment il y a encore la dernière session du synode, hein, de l'Église, de la synodalité, octobre 2024. C'est déjà le premier cap. Hein, comment est-ce que, parce que le synode, la session d'octobre n'a pas pu valider ça. Hein, on ne s'est pas prononcé. C'est pourquoi la déclaration fiducia peut être considérée comme, bon, une décision du pape et puis de la congrégation pour la doctrine de la foi, pour aller de l'avant avec la bénédiction, même s'il y avait des atermoiements, des tergiversations, des doutes, hein, de polémiques pendant le synode. Alors, ma première hypothèse, c'est celle-là. Attendons le cap du synode octobre 2024. Deuxième hypothèse plausible, c'est que le prochain conclave est déjà lancé, hein, dans les coulisses, parce que, bien sûr, le Saint-Esprit agit, c'est quand même des groupes humains, des groupes de pouvoir, d'idéologie politique, théologique, traditionnaliste, conservateur, qui vont élire le pape. Et chaque camp est en train de, comme on dit, de positionner ses pions, mobiliser ses troupes et de les positionner. Donc tout ce que nous vivons comme les agitations autour des fiducia nous sommes déjà en pleine conclave, hein, en pleine préparation du conclave. Troisième hypothèse, et j'ai vu certains médias ont dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une gravité comme à l'époque de Luther? Effectivement, Eric, alors je cite rapidement trois textes de la Bible qui condamnent l'homosexualité. Lévitique 18, chapitre 18, verset 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Sagesse 14, c'est là que je voulais attirer votre attention. Sagesse 14 dans l'Ancien Testament, l'homosexualité est vue comme une conséquence de l'athéisme, hein, des philosophies matérialistes, mécanistes, athées, et conséquence de l'idolâtrie des païens. Sagesse 14. Mais aussi Romains 1, on y est maintenant. Romains, c'est le texte à partir duquel Luther élabore la théologie de la croix. C'est le texte, bon, il y en a d'autres, mais vraiment, c'est Romain, c'est l'épître romain. C'était un théologien, un moine augustinien Luther. C'est en lisant Romain, comment est-ce que la sagesse de Dieu se montre juste, malgré les apparences. Mais aussi, la question de la colère de Dieu, très important chez Luther. Et à Romain chapitre 1, Luther est dit que Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté, avec des relations contre nature, femme-femme, qu'on appelle aujourd'hui lesbienne, et homme-homme, qu'on appelle les gays. Alors, la question que vous posez, où est-ce que nous allons, on peut quand même dire, dans cette troisième hypothèse, cas de figure, nous sommes au cœur vraiment d'un volcan. Parce que Luther, c'est à partir des Romains. Aux Romains, n'est pas tendre avec les homosexuels. Il dit que, Saint Paul, il dit que l'homosexualité, c'est parce que les gens ont refusé de reconnaître Dieu dans sa création, dans la gouvernance du monde. Et Dieu les a livrés. Donc c'est comme une conséquence de l'athéisme et de l'idolâtrie des choses du monde. Donc nous sommes au cœur d'une question théologique redoutable et explosive, Eric.
Oui, Jean-Pierre, est-ce que peut-on comparer ce changement de pratique dans l'Église catholique à des moments historiques, comme vient de le dire Benoît, de transformation, de tension au sein de la chrétienté, comme l'héritage de la rébellion de Luther?
Oui, mais je voudrais revenir à ce que mon collègue a dit et par rapport donc à ta question, mais en deux points. Le premier, je crois qu'il y a une réelle crise du sens. Donc au sein de l'Église peut-être qui est en train de se réinventer. peut-être. Et là, on assiste presque à un procès. Un procès de soi. C'est pas l'Église en procès, mais c'est l'Église qui se regarde et qui se met en cause. Et je dis cela parce que c'est qu'on peut définir comme traditionnaliste en réalité, et donc il se base sur la tradition, l'enseignement de l'Église. Et donc, dans une certaine mesure, c'est le pape qui paraîtrait hérétique. Si on voit sur le plan historique et sur le plan de l'enseignement à l'Église. Deuxième élément, en parlant donc des crises du sens, c'est cette mise en cause aussi du pape, où on a des évêques, on a des prêtres, et qui se permet d'avoir un son dissonant. Enfin, je m'excuse pour la tautologie, ou un point de vue dissonant. Donc, il y a ça c'est un deuxième élément. Et puis, troisième, donc c'est aussi, me semble-t-il, le fait que en parlant des irrégularités et que le monde ou au sein de l'Église plutôt l'attention soit sur la question de l'homosexualité, et là je me demande si la question de l'homosexualité revient et où il y a des réactions violentes, si ce n'est pas parce que l'Église elle-même a mis, ou si c'est peut-être parce que l'homosexualité fait partie de la question sexuelle. Or, nous savons que la sexualité est un élément fondamental, un élément très important dans l'Église, surtout catholique. Donc, et alors, mais cela m'amène aussi à me poser des questions par rapport à la question de la bénédiction. C'est dans la même Église qu'on bénit les animaux, par exemple. Et c'est dans la même Église, et quand on va, par exemple, dans certains lieux, par exemple, un aumônier va prier en prison, dire la messe en prison, et il se retrouve là-bas avec des criminels, des gens qui ont tué des gens. Je ne dis pas que tous l'ont fait, mais certains. Mais il ne fait pas une distinction, il ne dit pas « je vais bénir seulement ceux qui ont moins péché ». Et alors, mettant dans cette condition, si on considère, du point de vue de l'Église, je ne dis pas du point de vue de la société, mais du point de vue de l'Église, si on considère l'homosexualité comme un péché, et donc l'Église ne peut que l'analyser comme péché, donc pas comme crime civil dans la société. Pourquoi est-ce que ceux qui ont commis les péchés ailleurs, par exemple, en tuant et qui se retrouvent en prison, eux ont droit à cette bénédiction? Et donc là, c'est une question, des questions plutôt qu'on puisse se poser. Et je dis ça, je regarde ici, je me limite au niveau de l'Église, c'est-à-dire dans la société ou ailleurs, on peut ne pas voir ou se poser la question de l'homosexualité comme un péché ou comme un mal.
Donc
dans
vous considérez cette déclaration comme un signe de modernisation de l'Église ou comme un simple ajustement pastoral?
Je constate, et comme l'a dit d'ailleurs mon collègue, qu'il y a deux courants de pensée et qui s'affrontent. Et je constate aussi, mon collègue m'a dit, est-ce que c'est peut-être pas la fin de la papauté? Moi, je dirais, mais nous arrivons à un moment où il y a confrontation de deux idées et qui sont à l'extrême. Et on verra celle qui, il y a l'une qui pourra et s'imposer. Mmh. Et est-ce que c'est celle prônée par le pape François? Et de mon point de vue, je ne crois pas qu'ils soient en train de soutenir l'homosexualité ou quoi, mais c'est vis-à-vis d'un certain nombre des choses, c'est qu'on appelle les pécheurs, où ils se demandent s'ils n'ont pas droit à la bénédiction. Et puis c'est dans la même Église, voyons, là on dit qu'ils sont des homosexuels, mais c'est dans la même Église aussi où certaines personnes qui seraient mortes en situation de péché n'avaient même pas le droit à un accompagnement à la messe, ou qu'on dise la messe, par exemple la messe on ne pouvait pas. Par exemple, quelqu'un qui se tuait, n'est-ce pas, dans le cas de suicide, pouvait pas amener son corps à l'Église. Donc il y a beaucoup de cas. Donc dans ce cas-là, je pourrais dire, est-ce qu'il y aura une évolution? Je ne sais pas. Mais il semblerait que dans un livre récent sur la sociologie, disons, en étudiant des phénomènes dans l'Église, il semblerait que au sein de l'Église et surtout au sein des consacrés, et qu'il y a un grand pourcentage, jusqu'à 80%, mais ça s'est vérifié dans ce livre, de 80% des prêtres qui seraient homosexuels, mais pas nécessairement pratiquants. Donc, ils vivent leur chasteté, mais tout en étant homosexuels, en ayant ces tendances. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça demande aussi d'autres études et continuer une réflexion là-dessus.
En quelques secondes, sur cette question de Luther.
Juste, je peux terminer avec un mot, oui. Parce que vous me demandiez ce que vous pensiez que. Moi, ce que je pense, ce n'est pas personnellement, c'est pas une prise de position par rapport à ceux qui sont homosexuels ou qui ne le sont pas, mais si je prends une position, c'est contre la violence, contre un groupe de gens. Et ça est, parce que nous avons des cas. Par exemple, après ces déclarations, le président du Burundi, par exemple, il a dit, il faut qu'on amène ces gens publiquement et qu'on les lapide. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Donc, qu'on ait une certaine violence à l'égard de ces gens, pour moi, c'est inacceptable. C'est ce qui est inacceptable.
Il nous reste quelques minutes. Benoît, si vous pouvez prendre une minute juste pour répondre à cette question. Comment cette décision peut-elle être interprétée à la lumière des enseignements et de la doctrine traditionnelle de l'Église catholique sur le mariage et la famille? En une minute.
Ok, Eric, je pense que nous le complétons avec mon collègue. Je peux dire que, alors, c'est question de perception, Eric. Hein, comme il a dit, le pape n'encourage pas, ne normalise pas l'homosexualité. Mais en donnant cette fenêtre pour la bénédiction non officielle, non liturgique, des couples homosexuels, il y a la confusion dans la perception du peuple de Dieu. Vous voyez, donc c'est ça, donc toute la violence, toutes les violentes réactions, il faut les lire dans cette perspective. Mais en même temps, je crois que le pape, il faut aussi le comprendre, hein. Je pense que le pape, il est foncièrement marqué par la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Je ne crois pas que la déclaration fiducia a avalisé l'homosexualité. Donc la doctrine ne change pas, c'est seulement la pratique... Et surtout contextuel, continental, qu'il faut purifier, qu'il faut adapter à l'évolution. La doctrine ne change pas. C'est pourquoi il y a le lever de bouclier partout, parce que la déclaration semble se poser en contraposition totale par rapport à la grande tradition de l'Église et au magistère. Et comme vous venez de le dire aussi, le pape lui-même, c'est lui qui doit être le dépositaire, c'est lui le garant du dépôt de la foi. Et c'est ce qu'il fait. Mais la déclaration risque de montrer qu'il s'éloigne de l'orthodoxie. Donc il n'y a pas, je crois, il n'y a pas vraiment de grands changements au niveau doctrinaux, mais c'est plutôt au niveau des pratiques. Mais je crois que chaque camp se défend bien. Exemple, en Afrique, vous avez vu qu'aucun épiscopat ne bouge.
Oui.
Donc, c'est à l'Occident que les divisions seront beaucoup plus vives.
On a vu la réponse des clergés locaux et des paroisses vis-à-vis de cette nouvelle directive. On a vu des résistances ou des acceptations, donc qui sont sans doute liées aux enjeux socioculturels et politiques au sein de la société contemporaine et au sein même de l'Église catholique. Jean-Pierre, il nous reste une minute avant de finir cette émission. Comment cette déclaration pourrait-elle contribuer à une réflexion plus générale sur la variation et les tensions au sein de la chrétienté contemporaine, en mettant en lumière les différences d'interprétation et de pratique entre les différentes branches? En une minute.
Oui, en une minute, je dirais, on ne peut pas séparer l'Église de la société. Et donc, ce que nous vivons comme crise ou comme questionnement est lié à cette relation, à le fait que l'Église dépend de la société et la société aussi dépend de l'Église, cette interaction qui existe. D'ailleurs, quelqu'un disait, tous les concepts politiques ou sociaux sont des concepts religieux et des sacralisés entre guillemets, qui sont plus religieux. Donc, le reflet de la société occidentale qui semble en grande partie accepter ou tolérer ou accepter l'homosexualité, c'est lié aussi à donc la position de l'Église est liée à cette société. Les évêques africains aussi, c'est lié en grande partie à la société, ce que je pourrais dire.
Merci beaucoup Jean-Pierre Karegeye pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Merci également à Benoît Eli Awazimbambi Kungua. Merci pour vos différentes expertises dans cette émission. Eric Manilakis a été avec vous à la présentation. Gisèle Morissin a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique et à la prochaine.